Salut, c'est Variation sur PFM, aujourd'hui très largement consacré à un événement cinématographique dans la région et sur Arras, le 12e Arras Film Festival. Et en fin d'émission, un peu de lecture pour ce week-end avec la rubrique Noir c'est Noir de Guy. Vendredi prochain, comme je vous le disais, ouverture de ce 12e Arras Film Festival du 4 au 13 novembre avec des rencontres, des avant-premières, des rétrospectives et une carte blanche. Pour nous présenter ce festival, on accueille Éric Millot, délégué général de Plan Séquence. Bonjour.
Bonjour.
Et Boris, qui est aussi présent dans cette émission pour effectuer l'entretien avec moi. Salut.
Bonjour Éric, bonjour Bernard.
Alors, bon, on le dit tous les ans, hein, Eric est notre voisin de palier, les associations sont au même étage, donc pendant cette émission, nous nous permettrons de te tutoyer, comme on te côtoie régulièrement. C'est pour prévenir les auditeurs de cette familiarité. Et puis Boris, je te laisse la parole.
Eric, première question, le changement de nom du festival, donc la mention L'autre cinéma disparaît pour laisser place à Arras Film Festival. Alors pourquoi ce changement ?
C'était pour répondre à nos besoins au niveau international de lisibilité et on a essayé, au début on jonglait avec deux noms et on a cherché à simplifier pour simplement une raison de communication et puis on s'est dit que voilà, si on jouait sur trois mots simples, Arras, film, festival, c'était des choses qu'on pouvait comprendre dans n'importe quelle langue et donc ça permettait pour nous de simplifier les choses, c'est vrai que ça file très vite.
Dans le programme qui est disponible dans tous les endroits publics d'Arras et sa région, vous annoncez dans l'édito comme invité à l'honneur l'actrice Jacqueline Bisset et le réalisateur Jean-Paul Rapneau. Alors peux-tu nous rappeler un petit peu la carrière de Jacqueline Bisset que moi je me souviens avoir vu dans Le Magnifique aux côtés de Belmondo.
Oui, mais c'est vrai que pour beaucoup, on a découvert Jacqueline Bisset à cette époque-là, en fait, en 73, quand elle est venue en France pour deux rôles. D'ailleurs, c'est pas Philippe de Broca qui l'a fait venir, c'est François Truffaut pour La Nuit américaine. Mais Jacqueline Bisset, elle avait déjà une belle carrière à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui a commencé très jeune, elle était dans le Londres des années 60. Elle commence avec des actrices comme Charlotte Rampling, Jane Birkin, ils font de la figuration et très vite, elle obtient des rôles importants, notamment chez Roman Polanski, où c'est un petit rôle, mais ça va la faire connaître, c'est le film qui s'appelle Cul-de-sac, c'est un de ses premiers films. Et suite à ça, elle va obtenir un contrat à Hollywood et donc la voilà partir à Los Angeles et elle va, je crois, avoir la chance d'avoir des rôles dans des bons films à côté de grands acteurs. Je pense à Steve McQueen dans Bullitt, qui va être un succès international, et puis à également Frank Sinatra dans Le Détective, qui sont des films qui ont eu beaucoup de succès. Et suite à ça, elle va accéder au rang de star à Hollywood. Deux ans plus tard, elle est dans Airport, c'est un casting formidable. Il y a des gens comme Lancaster, comme Dean Martin, comme Gene Seberg, et elle est à égalité avec eux. Sauf que je crois qu'à l'époque, elle avait envie de rôle. Elle avait envie d'être plus qu'une simple star, une faire-valoir en tout cas de grands acteurs. Et je crois que la chance, elle est venue de François Truffaut. C'est lui vraiment qui lui, en lui offrant ce rôle magnifique dans La Nuit américaine, il lui donne un accès incroyable, quoi. À la fois, elle va continuer sa carrière comme star, mais elle va également avoir des vrais rôles dans des films de John Huston. Je pense à Au-dessous du volcan ou dans Riche et célèbre de Georges Cukor ou Plus près de nous, La cérémonie de Claude Chabrol, là, elle va vraiment pouvoir donner tout son talent de comédienne.
Alors, c'est une comédienne que l'on va voir dans le village de la Grand Place, puisque si les auditeurs, auditrices souhaitent en savoir un petit peu plus sur la carrière de Jacqueline Bisset, elle sera présente la leçon d'actrice pour
elle.
Ah
oui, c'est un moment toujours important, c'est-à-dire c'est un moment où il y a une discussion entre notre invité et un journaliste, et c'est effectivement, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur leur carrière.
Donc je vous rappelle que vous pourrez la rencontrer au village sur la Grand Place d'Arras le samedi 12 novembre à partir de 16h30 et c'est gratuit, dans la limite des places disponibles bien sûr dans le village.
Alors l'autre invité donc à l'honneur de ce 12e Arras Film Festival, c'est le réalisateur Jean-Paul Rapneau qui a réalisé des films grand public plutôt populaires et de qualité tels que Cyrano de Bergerac. Peut nous expliquer un peu le choix de ce réalisateur pour cette 12e édition?
Bah, c'est un vieux rêve, c'est-à-dire qu'il a le profil des gens qu'on aime bien à Arras, c'est-à-dire d'être capable de mener à la fois une carrière très personnelle avec des films qui parlent beaucoup de lui-même. Hein, ça paraît pas comme ça, mais un film comme son tout dernier Bon Voyage, par exemple, il y a énormément de lui-même dans le film. Mais c'était déjà vrai dans tous ses précédents, par exemple La Vie de Château, son premier film avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret. C'est déjà des films très personnels et en même temps, c'est des films très populaires, très c'est des comédies pour souvent ou des grands films historiques. Voire des adaptations littéraires d'œuvres connues, et ce qui fait qu'il a toujours eu une rencontre entre son travail et le succès. Enfin, il a cette chance-là, en sachant que c'est quand même un perfectionniste, c'est un peu notre Kubrick finalement, même à toute proportion gardée, c'est-à-dire c'est pas du tout le même univers, mais il met beaucoup de temps pour réaliser un film, ce qui fait qu'il a fait que 7 longs métrages, ce qui est pas beaucoup. Par contre, il a fait des scénarios aussi, il a travaillé avec plein de réalisateurs. On parlait du Magnifique tout à l'heure, c'est lui qui a participé au scénario.
Si vous êtes passionné du cinéma de Jean-Paul Rapneau, ou si vous voulez tout simplement découvrir, eh ben, il y a la leçon de cinéma qui est organisée à l'Université d'Artois, amphithéâtre Churchill, hein, comme chaque année. C'est également gratuit. C'était l'adresse exacte, c'est 9 rue du Temple, Arras, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et ça se passe le jeudi 10 novembre de 14h30 à 16h30. Et généralement, il ne faut pas arriver en retard parce qu'en général, c'est assez plein rapidement.
Ah oui, il y a du monde.
Please show me.
You're a Tourist par Death Cab for Cutie. Nous sommes avec Eric Mignot pour parler du 12e Arras Film Festival qui se déroulera du 4 au 13 novembre. Une nouveauté cette année avec une carte blanche avec Fiona Gordon et Dominique Abel, qui sont deux acteurs originaux hein, qui ont développé un comique visuel à l'écran. Comment s'est effectuée cette rencontre et cette opportunité de les faire venir ?
Enfin, il faut que je vous explique un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'est parti en fait, d'une programmation qu'on propose dans le cadre du festival qui est consacrée au burlesque, et notamment au burlesque des années 60. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ces films des années 60, bon, alors c'est les films de Black Edward, c'est La Partie, c'est le premier film de Woody Allen, le premier film de Mel Brooks, vous voyez, il y a tous ces films-là, et ils étaient hyper référencés à un cinéma que le public ne connaît peut-être pas toujours. Donc on a eu envie, à un moment, de faire découvrir au public d'autres aspects du burlesque pour qu'ils puissent comprendre toute cette dimension-là. Donc on a mis en place un ciné-concert, une création musicale avec Jacques Cambra et Jean-Carl Feldis. C'est une commande du festival à deux artistes, en fait, pour accompagner des films de la période muette, mais 1910, c'est-à-dire des premiers burlesques. Parce que tout est parti de là. Alors, dans les premiers burlesques, on a réussi à trouver des films européens, parce que le burlesque est né en Europe. C'est seulement la Première Guerre mondiale qui a mis un terme, en fait, et qui a fait que ça bascule sur l'autre côté de l'Atlantique. Parce qu'une partie des talents sont partis, ou que ceux qui sont arrivés, ils sont inspirés des Européens. Enfin, il y a eu tout ça. Mais le burlesque tel qu'on le connaît au cinéma, tel qu'il va se développer vers des grands auteurs comme Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, c'est venu d'Europe. Donc voilà, ça c'est le premier aspect. Après, on s'est dit, mais c'est pas suffisant, parce que comment on va parler des autres ? Et plutôt que faire nous-mêmes à nouveau une programmation, on a réfléchi à un artiste actuel qui travaille sur le burlesque. Et on en a eu deux, trois comme ça en tête. Et donc, comme on en a beaucoup parlé à Cannes, avec notamment la sortie de La Fée, on s'est dit, mais Dominique Abel et Fiona Gordon, leurs films sont pleins de références. C'est-à-dire que c'est non seulement des œuvres très personnelles, mais en même temps, ils ne font que se référer à leurs prédécesseurs. Et donc, on s'est dit, ça pourrait être très amusant de leur demander de choisir quelques films qui soient pour eux des modèles, c'est-à-dire des artistes qui les intéressent et qui les ont interpellés et qui les aident dans leur création aujourd'hui. Et on leur a donné comme commande de choisir des films qui couvrent un peu toute la période, sauf les tout premiers, puisque ça on s'était gardé pour le ciné-concert.
Cette année encore, nous allons découvrir le cinéma d'Europe et du monde, et aussi une compétition européenne qui sera présidée cette année par Claude Lelouch. Alors, il y a un jury, évidemment. Tu peux nous donner quelques mots sur la conception de ce jury ?
Ah bah, c'est une galère. si vous voulez, il faut arriver à convaincre quelqu'un qui puisse nous accorder 4 journées quand même. C'est pas une chose facile. Dans l'emploi du temps des artistes, c'est pas évident. C'est-à-dire que si vous leur demandez de vous accorder une journée ou une soirée, ça va encore. Mais 4 jours, c'est un engagement. Voilà, c'est un vrai engagement de dire « je vais me consacrer à ça ».
Lors de cette compétition européenne, il y a également une nouveauté, c'est le prix Regard Jeune, oui, c'est ça, décerné par un jury de lycéens. Alors, comment s'est constitué ce jury ?
Bon, bah, c'est dans des échanges qu'on peut avoir régulièrement avec la région Nord-Pas-de-Calais, qui est quand même notre principal partenaire. Et on trouvait intéressant de pouvoir y associer un certain nombre de lycéens, parce que c'est une expérience qu'ils ont déjà menée. Et on trouvait que vu que le Festival d'Arras, c'est quand même la compétition, une sélection de films qui sont plutôt des films de jeunes réalisateurs ou qui sont là pour montrer des talents, des nouveaux talents européens, c'était quand même intéressant de pouvoir y associer des jeunes.
Alors dans les avant-premières, il y a également le grand retour de David Cronenberg après 4 ans d'absence et son nouveau film Dangerous Method. Alors est-ce que c'est un bon cru ?
Oui, enfin, un Cronenberg, c'est toujours un cinéaste passionnant pour moi, enfin personnellement. Après, c'est quelqu'un qui aime bien nous surprendre aussi. Donc, je pense qu'il est, son film est très différent de ses deux précédents, qui était peut-être plus grand public, plus ouvert. Là, on revient un peu à un Cronenberg plus psychologique, mais aussi très fort. C'est-à-dire, et avec des comédiens, alors là, pour le coup, assez, assez extraordinaires. Hein. On a quand même 3 acteurs de très grand niveau. I lost my heart. I didn't know what to do. I was so caught in this.
misunderstanding. I took it all out on you, 'cause I didn't like the word.
I didn't like the word.
I didn't like the word. I lost my heart. I sat on my window and looked out and watched the rain wash down the street. Oh, will the sun rise like the birds that fly over, rising up through the trees? Oh, will you be there for me? Will you belong to me? Am I forgiven? Should let you go, there would be nothing, and silently love would be sown, and I could begin again. Can we begin again? Am I forgiven? Am I forgiven?
Am I Forgiven par Rummer. Dans Variation, gros plan sur ce 12e Arras Film Festival qui débutera le 4 jusqu'au 13 novembre. Et nous sommes avec Eric Millot comme invité. Eric, question difficile. Dans toute cette sélection, si tu me proposes 5 films à voir.
Alors, un des premiers films que j'ai vu après le Festival de Cannes, c'est Louise Wimmer. C'est un film d'un jeune réalisateur français qui s'appelle Cyril Ménégoun. Et quand vous lisez le scénario, vous dites « Oh là, qu'est-ce qu'il va me raconter ?» L'histoire d'une femme qui vit dans sa voiture tout le temps. Elle se débrouille pour avoir... Elle travaille, hein, elle fait un petit boulot, mais elle n'a pas assez de revenus. Elle n'arrive pas à avoir un logement. Ça va encore être du cinéma social hyper ardu et tout le machin. Et alors, quand vous vous balancez, ça dure 1h15, vous êtes là et vous prenez une claque comme vous ne pouvez pas imaginer. C'est un portrait de femme incroyable. Cette actrice qui est en plus une actrice du Nord, hein, c'est quelqu'un qui a un visage que tout le monde connaît, mais qu'en même temps, elle n'a jamais eu de grand rôle. D'un seul coup, on le voit à l'écran et elle passe par tous les stades. C'est-à-dire qu'elle peut être détestable, on peut en tomber amoureux. On est vraiment fasciné par cette femme. Et puis, elle nous entraîne dans sa voiture au son de la musique de Nina Simone. Et voilà, ça finit par vous donner finalement la pêche. Et le film se termine avec une lueur d'espoir qui fait que vous n'êtes pas sorti de la salle en vous disant « c'est quoi encore ce truc ?»« Ça m'a plombé, je vais déprimer pendant toute la journée. » Au contraire, ça donne une note d'espoir qui vous réchauffe le cœur. Alors deuxième film, c'est un film qu'un jour j'ai eu un coup de téléphone du distributeur Giafana. Giafana, c'est les gens qui sortent Ken Loach, vous voyez tous ces films-là. Mike Lee, très branché sur le cinéma d'auteur anglais. Et ils me disent, on a un petit film à vous montrer. Alors je vous explique un peu ma vie, mais la partie dans la petite salle de projection de Giafana, qui est une petite salle très, très intime, hein, tout seul. Et on me dit, on va vous montrer un film, personne ne l'a encore vu, vous allez voir. Alors voilà, la partie avec, on m'a dit, c'est un parler. parler d'Israël, la Palestine. Alors j'ai dit ça m'intéresse puisque c'était un sujet qui me passionne moi et qui plus est j'en rentrais. Donc j'avais une vision, j'avais des images en tête et me voilà projeté dans cette histoire incroyable. Ça s'appelle Une bouteille à la mer. C'est d'après un roman que j'ai pas lu mais qui a une bonne cote, qui est Une bouteille dans la mer de Gaza, qui était plutôt un roman jeune public mais qui a eu un grand succès. Et c'est l'histoire d'une jeune ado qui est israélienne, mais qui vient de France. Hein. Ses parents sont venus s'installer en Israël, à Jérusalem. Et suite à un attentat à la bombe, puisqu'on est en pleine intifada, elle se dit il faut qu'on renoue le dialogue avec les Palestiniens. Donc elle fait un message, elle écrit un message, elle le met dans une bouteille, elle demande à son frère qui fait son service militaire près de la bande de Gaza de jeter la bouteille à la mer, en espérant qu'il y ait une fille qui va la récupérer et qu'elle va pouvoir entretenir une correspondance en fait avec une Palestinienne pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis il se trouve que c'est pas une Palestinienne qui lui répond, mais c'est un Palestinien, un jeune aussi, et que il se fait appeler Gazaman et qu'il est plutôt très agressif au départ. Et petit à petit, va se nouer une relation très forte. Et grâce à ces deux personnages, on va découvrir toute la complexité de ce qu'est aujourd'hui d'être israélien ou palestinien, sans porter de jugement. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le film, il dit « un tel, ils ont tort, un tel, ils ont... » C'est vraiment la vraie situation telle qu'elle existe aujourd'hui dans ces pays, toute sa complexité, avec des extrémistes de chaque côté, et des gens de bonne volonté qui essaient de vivre et qui ont beaucoup de difficultés. C'est pas plombant, c'est une vraie histoire d'amour, c'est une vraie histoire simple. D'ailleurs, j'ai proposé tout de suite, après avoir vu le film, j'ai dit « on fera une projection publique, mais je voudrais garder le réalisateur le lendemain matin pour faire une projection, rien qu'à des lycéens. Hein. » Ça m'intéresse, moi, de voir personnellement la réaction des jeunes par rapport à cette histoire qui va les toucher, puisque c'est des lycéens eux-mêmes, hein, c'est des gens qui ont, enfin, ces jeunes, ils ont 17 ans, donc ça m'intéressait beaucoup. Et c'est un beau film, tout simple, voilà, c'est une vraie histoire qui vous embarque, c'est pas pénible du tout, et ça vous montre tout ce que vous voyez pas au journal télévisé.
BFM 99.9.
Je n'ai pas de route toute tracée, fais mon dièse, dièse, dièse. Jamais eu de capitaine, jamais suivi de troupeau, non. Quand les autres attendent à bouffer, je me sers, sers, sers. Pas de cantine, je n'ai pas d'école. Difficile pour moi de mentir, difficile pour moi de rester dans les ranges, je vais pas ramper pour être en reste. L'uniforme, ça me bride, rien à faire, faire, faire. Je suis naissant, j'ai toujours eu mes propres idées. On ne change pas. Un vilain petit canard. On ne change pas. Un vilain petit canard. J'en connais qui ont peur d'exister. Chez mes pères, pères, pères. Beaucoup préfèrent se laisser guider. Je préfère me laisser perdre. Si je veux le jeu, c'est juste imiter. Alors je cherche, cherche, cherche. Mais j'ai toujours pas trouvé l'école. Difficile pour moi de mentir. Difficile pour moi de rester. Dans un camp, je fais pas la guerre, laissez moi en paix. L'uniforme, moi, ça me bride. Rien à faire, faire, faire. Je suis naissant, j'ai toujours eu mes propres idées.
Ne change, ne change pas.
mon essentiel. J'avance tête haute et j'en chie. Mon existence est trop courte pour en faire une pâle copie conforme. Alors j'enchaîne.
Action.
Parler dans les enceintes. Pour les tordus et les gens simples. Musique, mon amour, oui, je la nourris. Normal, je l'ai mise enceinte. Mon son, une tuerie là pour durer. À le goût du risque et loin du reste. Je vais assurer, pas devant un jury, juste pour déchirer. À ma façon, je suis navré. Cousin, CFO, Carina, pas le même fuseau horaire. En retard ou en avance, je ne compte pas m'en excuser, j'en ai horreur.
On ne change, on ne change pas.
Un petit canard par Féfé. Nous sommes avec Éric Mignot pour parler du 12e Arras Film Festival qui se déroulera du 4 au 13 novembre. Et nous continuons la recommandation de quelques films avec une troisième sélection.
Alors la troisième sélection, c'est un gros coup de cœur, alors vraiment énorme pour un réalisateur que j'aime beaucoup mais que je ne partage pas tous les films, c'est Cédric Kahn. Moi j'avais beaucoup aimé son Roberto Succo par exemple, j'avais trouvé très très fort. Et là, je me suis dit, ah bon, son nouveau film, voilà, Guillaume Canet, bon, allons, voyons. Voyons. Puis là, grosse claque, quoi. Grosse claque parce que ça commence comme un film d'auteur français classique, comme Cédric Kahn l'a fait bien d'ailleurs. Hein, mais oh, bah, qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Une histoire d'amour. Voilà, c'est un type qui travaille dans une cantine collective et puis il rencontre une serveuse et puis ils veulent monter un restaurant. Et ils s'engagent dans des histoires de dettes. Bon, vous dites, ouais, c'est le cinéma. Et puis, petit à petit, plus que le film avance, le film se transforme en une force incroyable, un film à la Ken Loach, mais vraiment très très fort. Et petit à petit, comme ça, plus qu'on avance, plus le film prend d'autres aspects. Ça se termine en road movie, les comédiens sont formidables, et Canet, je crois qu'il est au sommet. Enfin, franchement, il m'a laissé complètement pantois, c'est-à-dire que je l'ai déjà vu bon, mais à ce niveau-là, je ne pense pas. Et là, on a vraiment un des grands films français de l'année, par un réalisateur finalement que j'aime beaucoup, et même si j'ai pas toujours adhéré à ce qu'il a fait, là je pense qu'il est à son meilleur niveau sur ce film qui s'appelle Une vie meilleure, je crois que j'avais pas prononcé le titre.
Une vie meilleure.
C'est pareil, quand vous lisez le scénario, vous dites, ah, ça va encore parler de surendettement, de choses comme ça. Ouais, il y a beaucoup de films cette année dans le cadre du festival qui sont sur des sujets de société quand même très forts. Enfin, c'est quand même une tendance du festival, mais en plus c'est une tendance du cinéma cette année. Mais ce qui est bien, c'est que c'est tous des films qui nous parlent de notre société, mais qui nous plombent pas, c'est-à-dire que il y a toujours une note d'espoir dans ces films.
Ouais, donc il y aura Guillaume Canet, Leïla Bekti hein, qui joue aussi dans le
film. Elle est admirable aussi.
Et le jeune Slimane Ketabi qui sera d'ailleurs présent.
Oui. Donc, il va coucher tard d'ailleurs parce que le film va être 1h30, je suis un peu inquiet, mais non, il n'a pas école le lendemain.
Après, parmi tes sélections, Soderbergh.
Ah oui, je voulais garder pour la fin, mais...
Tu voulais garder pour la fin?
Je voulais garder pour la fin, mais je peux parler... Non, je vais parler de Steven Soderbergh.
Alors depuis Sexe, Mensonge et Vidéo, il a obtenu une palme il y a très très longtemps.
Et moi, je suis un inconditionnel de Steven Soderbergh, donc voilà, j'aime tout ce qu'il fait, c'est-à-dire j'aime bien quand il fait des tout petits films intimistes, avec une comédienne, quelques acteurs, c'est presque à l'européenne en fait. Hein. Et puis j'aime bien quand il fait Trafic, quand il fait son Chez, qui représente les deux d'ailleurs, parce que quand vous regardez le Chez, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a la première partie, c'est plutôt le grand spectacle et tout, puis le deuxième, c'est presque le petit film, fait caméra dans la jungle, là, avec sa caméra, vous dites, et ça, c'est le côté Soderbergh. Et je trouve que dans son film qui s'appelle Contagion, il a réuni ces deux spécificités qui font son cinéma. C'est-à-dire qu'à la fois... Alors, c'est un truc, c'est pareil, vous vous dites comment il va nous raconter ça. C'est une histoire d'une épidémie telle qu'on pourrait la connaître à l'échelle planétaire. Et il choisit... Alors, on retrouve un peu... Beaucoup ont parlé au moment de la présentation à Venise que c'était plutôt dans l'esprit des films catastrophes des années 70. Effectivement, on retrouve la brochette de stars et ils sont incroyables. Ça va de Kate Winslet à Marion Cotillard, en passant par Matt Damon. Enfin voilà, il y a un casting, vraiment un casting de rêve. Ils sont tous superbes. Certains veulent leur arriver des malheurs d'ailleurs, parce que c'est quand même un sujet incroyable.
Contagieux.
Et voilà, mais en même temps, il prend l'option de nous faire ça de façon très réaliste, c'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout à la façon Hollywood, il l'a fait toujours à la façon de Soderbergh, et que tout ce qu'on y voit, c'est hyper crédible. C'est-à-dire que quand vous lisez les scientifiques, ils disent que le film représente exactement ce que pourrait arriver s'il y avait une épidémie à l'échelle mondiale.
Dernier, cinquième sélection.
J'ai envie de vous parler d'un petit film mexicain, moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai qu'on est très européen à Arras, mais de temps en temps on fait des incursions du côté de l'Amérique latine. Et là, moi, ce film m'a beaucoup touché parce que c'est l'histoire d'un jeune berger dans un coin complètement désertique du Mexique, et il rêve de neige en fait. Et ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, mais il ne sait pas ce que c'est, il ne l'a jamais touché, mais il a dû voir à la télé, bon, il s'ennuie, hein, mais il rêve de neige, et puis il trouve un jour un porte-clés, puis suite à ça, ben, il a envie de partir sur la route et d'aller à la rencontre de la neige. Alors, il y a toute une trame qui l'emmène, et il va parcourir toute l'Amérique, alors avec tous des péripéties, hein, il va devoir traverser la frontière avec tout ce que ça suppose, puisqu'il est mexicain, et que c'est plutôt compliqué quand des Mexicains franchir la frontière des États-Unis. Après, une fois qu'il sera de l'autre côté, ben, comme il vient un peu de sa campagne, ben, il ne s'attend pas à ce que le monde il soit aussi dur avec lui. Donc il se fait voler, il lui arrive que des malheurs, on lui vole sa veste. Et puis il finit par se comporter comme ceux qui l'ont volé, c'est ça qui est terrible. Et alors, le personnage est très touchant en plus, hein. C'est un acteur, c'est le plus grand acteur mexicain actuel qu'on ne connaît pas trop en France. Mais moi, j'avais une paire de films que je vois avec lui et je me dis que ce Gabino, là, parce qu'il s'appelle Gabino, ben, je pense que c'était vraiment... En plus, c'est un physique, quoi. C'est pas une beauté. Enfin, voilà, on n'est pas dans l'acteur hollywoodien. On est quelqu'un avec un visage un peu particulier. Et il va remonter jusqu'à l'Oregon, comme ça, dans une histoire incroyable. Alors, je ne raconte pas la fin, mais... voilà, mais c'est vraiment un symbole d'un film qui vous fait envie de voyager et rêver. C'est un peu ce qui guide aussi cette section cinéma du monde.
Rappelle-nous le titre du film.
Ah oui, je ne l'ai pas dit non plus, c'est « Tiro de Piedra », voilà. Un jet de pierre en fait, voilà. Et un jet de pierre, c'est plusieurs kilomètres, milliers de kilomètres.
Vous retrouvez tous ces films, alors c'est vraiment quelques films de cette grande sélection que vous pourrez retrouver donc sur le programme, qui sera disponible partout dans les endroits habituels, hein, Office culturel, Ciné Movida, tous les cinés de la région... Et n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des renseignements, de téléphoner donc au village du festival.
Oui, ou de regarder le site de Plan Séquence, parce que avant qu'il y ait le téléphone au village,
d'accord.
Je pense que vous avez toutes les informations, à la fois des projections, des gens à rencontrer. Après, le village, il est intéressant parce que vous savez les dernières nouvelles, c'est-à-dire ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus, ceux qui n'étaient pas prévus et qui sont là, s'il y a quelque chose qui est d'une dernière minute. Enfin, ça vous permet aussi d'avoir toutes ces informations-là.
Éric Mio, merci. Rendez-vous du 4 au 13 novembre au 12e Arras Film Festival.